Chers frères et sœurs en Christ, quel magnifique passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Il est difficile de dire ce que Jésus est venu chercher dans ce temple à l'approche de la Pâque. Certainement qu'il vient exactement comme nous le faisons, simplement reconnaître la présence vivante de Dieu au milieu de son peuple. Mais voilà qu'en ce lieu, il découvre que l'idolâtrie, la superficialité, le mercantilisme, la cacophonie ont envahi le sanctuaire. Là où il espère rencontrer des croyants, il tombe sur une sorte de champ de foire avec marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs assis à leur comptoir. Alors Jésus, nous l'avons entendu, avec l'aide d'un fouet fait d'une corde, il chasse ces vendeurs et ces changeurs. Il est coutume d'interpréter cette scène comme une manifestation de colère de sa part, renvoyant effectivement à ce qu'a écrit le psalmiste, « Le zèle de ta maison me dévore. » Mais convenons-en, c'est aimer l'homme et c'est aimer les hommes en vérité que de bousculer les systèmes, les processus, les mécaniques qui empêchent ces hommes de s'épanouir et d'être célébrés. Certes, Jésus est là, convenons-en, particulièrement dur et résolu. Il ne peut tolérer que la maison du Père soit polluée, même s'il s'agit de petits et d'une certaine manière d'indispensable commerce. Pour autant, Jésus sait bien que dans un temple qui accueille ces petits commerces, on en arrive vite à vendre un homme, ou même à acheter la vie d'un homme, pour seulement 30 deniers. Mais le marché qui scandalise Jésus par-dessus tout, c'est notre rapport à la religion, au rite et au sacré, et à tout ce qui leur est annexe. Arrêtons de penser avec suffisance que nous serions loin, que nous serions loin des erreurs des pharisiens et des sadducéens, de tous ces gens qui mettent en colère Jésus. Comme eux, nous brisons tout autant les Écritures en les ensevelissant sous une montagne de traditions humaines. D'ailleurs, nous ne semblons jamais nous interroger sur ce que nous faisons en matière de rites et de pratiques et pourquoi même nous le faisons. Au lieu de cela, nous suivons allégrément nos traditions religieuses sans jamais chercher à en connaître leur origine. Réalisons quand même que la plupart de tout ce que nous, chrétiens, quelles que soient les confessions, nous, réformés, protestants, tout ce que nous pratiquons ici dans cette Église, tout cela n'a jamais été déterminé ni par Jésus, le Christ de Dieu, ni par les apôtres, ni même par les Écritures. Aussi bouleversant, aussi fouettant que cela puisse paraître, presque tout ce que nous faisons en tant qu'Église a été emprunté bien davantage à la culture païenne, à la culture de ceux qui adoraient les dieux de l'Empire romain, que par les injonctions et les exemples que nous donne le Nouveau Testament ou l'ensemble des Écritures. Autrement dit, le fait d'appartenir à une église et une église institutionnelle comme celle dont nous allons avoir l'Assemblée, et le fait de prendre le Nouveau Testament au sérieux, ne nous empêche en rien d'avoir sur ce point une réflexion, et même plus loin, une crise de conscience. Si c'est bien cette crise de conscience que Jésus vient littéralement fouetter. Comme les pharisiens et autres sadducéens, nous en sommes arrivés à tenir Dieu à distance respectueuse derrière une double muraille, celle des pierres et celle des rites. Convenons-en, même si cela ne fait pas plaisir à entendre, que dans nos temples de pierre, Dieu est pour ainsi dire gardé à vue, assigné à résidence, ou plutôt, parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui, je prends un mot d'actualité, confiné à portée de main. Et ainsi, depuis fort longtemps, nous ne pouvons plus communiquer avec lui que par la religion, avec comme conséquence que le temple maintient Dieu à l'extérieur de l'homme et donc, inévitablement, à l'extérieur du monde. Et ainsi, puisque le domaine de Dieu s'est devenu le ciel, le temple et le rite, il est donc condamné à y rester. Et même le monde lui demande expressément qu'il n'aille plus se mêler du reste de ses affaires et des affaires des hommes. Mais à la vue de ce que sont devenues nos assemblées, il y a longtemps que nous aurions dû réaliser qu'entre les lieux et les hommes, la religion a choisi depuis longtemps le temple au détriment des hommes, contrairement à ce que faisait Jésus, qui était par mon et par l'eau et parmi les hommes. Comprenons alors combien, armé de son fouet, rejetant les vendeurs hors du temple, vidant le lieu de ses commerces et de ses marchandages, Jésus inaugure un monde neuf où l'expérience de Dieu n'en est plus réduite à tourner en rond entre les quatre murs d'un temple ou d'un rite. N'en déplaise à tous ceux qui souhaitent rester dans l'entre-soi ecclésial. En Jésus, le Christ de Dieu, en Jésus, le Verbe fait chair, l'expérience de la foi est ouverte à l'homme, à tous les hommes de partout et de toujours, et c'est désormais le monde entier qui est le rendez-vous de Dieu et de l'homme. Par Jésus le Christ de Dieu, nous connaissons le seul et véritable temple que Dieu veut habiter. Et ce temple où Dieu veut habiter, il se situe là, à l'intérieur de notre cœur. Quelle extraordinaire vocation que celle d'être la maison que Dieu construit, la maison que Dieu se construit, là, à l'intérieur de notre cœur. Et en plus, lui, il se la construit sans aucune autorisation ou permis. Et c'est ce qui est le plus beau et le plus unique dans la foi chrétienne. Nous sommes, chacun de nous, nous sommes dans nos personnes, cette splendeur de la vérité, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, est destinée, chacun de nous, à une vie qui ne finit pas. Détruisez et je rebâtirai. Mourez et vous vivrez. Dans sa personne, Jésus a exprimé toute notre splendeur qui ne peut s'éteindre. La beauté de Dieu est notre naturel. Je ne l'ai jamais vu inscrit sur un temple. La beauté de Dieu est notre naturel. Voilà pourquoi, lorsque Jésus entre dans nos vies, il y entre comme dans le temple, en renversant, en fouettant ce principe, en jetant en l'air les étals de nos intérêts mesquins et égoïstes, et surtout en réaffirmant la primauté absolue de Dieu. Si Jésus manifeste un zèle, si Jésus manifeste une passion pour chacun de nous, pour chacun de nos cœurs, pour chacune de nos vies, c'est bien pour que nous nous ouvrions à l'accueil de Dieu, qui est aussi l'accueil du monde. Jésus a un immense désir d'habiter en nous. Mais plus important encore, il a un immense besoin de nous voir habiter chez lui, de nous recevoir en lui, de nous recevoir dans son être et de nous recevoir dans sa vie. Il a un immense désir de chasser de nos vies ce qui n'est pas sa vie pour que nous devenions ce qu'il est. Ainsi, l'Évangile peut devenir comme le fouet que Jésus emploie pour changer le cœur et la vie. Bien plus, chaque fois que l'Évangile est ouvert, entendu, mâché et pensé, il chasse, il fouette l'attachement à soi du cœur de ceux qui l'écoutent et il renverse l'obstination à suivre à tout prix ses seuls propres intérêts égotiques. Malheureusement, et oui, malheureusement, il n'est pas rare que nous nous placions du côté de tous ces pharisiens et autres sadducéens dont parle l'Évangile, lesquels, voyant un laïc, ce qu'était Jésus, dans le territoire sacré du temple, se scandalise et demande la raison d'une intervention aussi brutale et aussi irrévérencieuse. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? Demande-t-il. C'est l'opposition sourde que nous faisons encore à l'égérasse de l'Évangile dans nos propres vies. Alors ne nous y trompons pas. Ce qui met Jésus en colère, c'est de voir l'expression de la foi devenir un moyen de trafic et d'intérêt au lieu d'être une relation filiale et fraternelle. Comprenons que Jésus veut libérer les hommes et les femmes, c'est-à-dire chacun d'entre nous, d'une image perverse de Dieu que nous enfermons entre les murs d'un temple ou d'un rite. C'est exactement ce que l'Évangile nous explique lorsqu'il nous laisse entendre que Jésus, le Christ, a désacralisé les temples de pierre pour sacraliser les temples de chair. Nous portons en chacun de nous le Dieu vivant. Nous portons le Dieu vivant. Et pour en être sûr, et pour être sûr d'être bien compris, l'Évangile le dit explicitement. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Voilà pourquoi il y a un marché qui scandalise encore plus Jésus et sur lequel il est important de porter notre attention. C'est celui qui se situe à l'intérieur de notre cœur. C'est ce marché-là qui scandalise encore plus Jésus. Car notre cœur est le véritable temple, je le redis, je le répète, que Dieu habite. Comprenons que ce marché concerne la façon de concevoir et de mener sa vie. Que de fois, la vie se réduit à un long et avare marchandage privé de la gratuité de l'amour. Que de fois devons-nous constater, en commençant par nous-mêmes, que de fois devons-nous constater la raréfaction de la gratuité, de la générosité, de la bienveillance, de la miséricorde, du pardon. De la grâce aussi, bien sûr. La loi d'Airain de l'intérêt personnel du couple, de l'équipe, du groupe, de la communauté ou de la nation semble inexorablement dominer nos vies. Nous sommes tous, plus ou moins, affairés à faire du commerce pour nous-mêmes et pour notre profit, sans nous préoccuper de savoir si cette pratique fait proliférer les mauvaises herbes de l'arrogance, de la mesquinerie, de l'insatiabilité et de la voracité. Les coups de fouet de l'Évangile nous rappellent, en nous chassant de nos rituels conformistes, qu'être chrétien consiste d'abord à s'insurger pour créer en soi et autour de soi une vie autre. Non pas corriger, amender, améliorer la vie telle qu'elle est présentement, et présentement dominée par une morale meilleure, qui serait une sorte d'orthopédie éthique, hein, comme une forme de prothèse. Non. Ça, c'est la logique des marchands, contre laquelle s'insurge Jésus dans le temple. N'encombrons pas nos cœurs de marchands de bœufs. N'encombrons pas nos cœurs de marchands de brebis ou de pigeons ou de changeurs. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de laisser Jésus lui-même faire maison nette en nous, de le laisser fouetter, balayer tout ce qui nous encombre. Nos préoccupations, nos repliements sur nous-mêmes, bref, tout ce qui nous coupe des autres et du Père des cieux. Au moment où autour de nous, il y a tant de désolation, devant des églises qui se ferment. Faire mémoire que nous sommes ce vrai temple de Dieu dans nos églises de pierre ne sont que des signes qui doivent nous remplir de joie. Vous pouvez changer de tête. C'est la joie qui doit nous remplir. Détruisez ce temple, dit Jésus, et je le reconstruirai en 3 jours. N'oublions jamais que c'est pour cette vérité que Jésus meurt et qu'il ressuscite en 3 jours. Répétons-le sans cesse, tant il reste éternellement vrai qu'il n'y a qu'un lieu où Dieu soit vraiment saint, c'est le cœur des hommes et des femmes qui croient sans réserve à sa bonté. Alors qu'importe ce que devient le temple de pierre du moment que l'homme est vivant. Nous parlons bien de l'homme et de la femme, de l'être humain, qui n'est pas dans son corps comme une chose dans un lieu. Nous parlons bien de l'homme, de la femme, de l'être humain, qui n'a pas un corps comme on possède un objet, mais qui est son corps, qui est le corps de Dieu. N'oublions jamais que Jésus lui-même n'a pas joué à l'homme comme on joue une comédie. Si Dieu s'est fait corps, si Dieu s'est incarné, s'il s'est fait chair, c'est pour communiquer avec nous, c'est pour communiquer avec chacun de nous. Et si le temple de pierre est bien détruit, c'est bien pour que nous réalisions que notre corps, c'est-à-dire le temple de Dieu, que notre corps est déjà en Christ ressuscité. Amen.